avec Elgas.
La mémoire du continent s'arrête aujourd'hui aux géopolitiques de Nantes, dans l'Ouest français, pour parler des migrations des étudiants africains. Mobilité, pour reprendre un terme plus savant, et bien sûr, qui dit migration, allume déjà dans le cerveau de beaucoup de gens cet imaginaire, tout de suite à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Je vous propose justement aujourd'hui de rester sur le continent, en particulier dans le Sahel, pour parler de l'histoire de ces mobilités des étudiants, depuis qu'on commence à les tracer, c'est-à-dire un repère chronologique, un spectre très très large donc dans le temps, pour comprendre les interconnexions continentales à rebours des préjugés et pour être dans une dynamique tout à fait endogène. Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle tranche d'histoire du continent par lui-même et bien sûr dans les courants du monde. Et pour nous éclairer, nous plonger dans l'histoire de ces migrations d'étudiants au Sahel, nous permettre tout simplement de comprendre à la fois les enjeux, les chiffres, les flux, les objectifs, les désirs des étudiants, leur accueil, les politiques africaines en termes d'attractivité et bien sûr les clés pour comprendre aussi ce que ça symbolise pour le continent ainsi que les dates clés. Tout ce parcours de la migration est au cœur de votre émission aujourd'hui. Je suis en compagnie du sociologue malien Niandou Touré. Niandou Touré, bonjour.
Bonjour Elgas.
Très heureux de vous retrouver ici à Nantes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes, je le précise pour nos auditeurs, un sociologue spécialiste des questions de migration. Vous enseignez à Paris, mais aussi à l'université de Bamako. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Migration et Société. Essayons de remonter un peu d'abord dans le temps, qu'on puisse un peu tracer ces migrations des étudiants dans le Sahel. Quand les premiers flux ont commencé à s'établir d'une certaine manière dans cette région, est-ce qu'on peut connaître un tout petit peu le contexte d'alors ?
Pour ces questions-là, il faudrait commencer par dire qu'en raison de la distribution très inégale des établissements d'enseignement dans la région sahélienne d'Afrique de l'Ouest, les mobilités sont consubstantielles à la mise en place, à la création même des écoles. Elles ont d'abord lieu à l'intérieur des frontières nationales, entre guillemets, étant donné que pour une école primaire, il fallait déjà quitter sa ville. Et donc ensuite, elles ont lieu à l'échelle de toute la sous-région avec deux principaux pôles centraux, l'actuel territoire du Sénégal et le territoire du Mali. Et donc, s'il fallait trouver un bornage temporel pour le début de ces mobilités-là, on les situerait déjà à partir de 1910, parce que l'un des établissements qui accueillera le plus grand nombre d'étudiants, c'est bien entendu l'école normale William Ponty, créée dans un premier temps dès 1903 dans la ville de Saint-Louis, avant d'être déplacée en 1913 à Gorée, puis une troisième fois d'être déplacée à Sébikota. Et donc les mobilités dans la région ouest africaine, elles se font principalement en direction du Sénégal, donc pour les jeunes de la Haute-Volta, pour les jeunes du Dahomey, pour les jeunes du Soudan français et pour les jeunes du Niger déjà à l'époque.
Merci beaucoup pour ces premiers repères donc chronologiques, mais aussi un ancrage géographique avec donc le Sénégal, l'école William Ponty. Nous sommes en pleine période de colonisation. Quelle était à ce moment-là la cartographie des autres établissements, juste dans la période après? Comment vont se déployer les premières écoles qui vont être au cœur de cette migration des étudiants? Le contexte, il dit quelque chose d'assez simple finalement, c'est que c'est finalement des migrations contraintes, parce qu'on était dans une rareté des établissements. Comment justement naviguer dans cet ensemble très incertain?
Absolument, les migrations étaient contraintes étant donné que pour certaines formations, il fallait absolument aller dans certains endroits en particulier. Donc s'il fallait continuer dans notre localisation dans l'espace-temps des établissements, il faudrait commencer par noter la création en 1918 de la faculté de médecine de Dakar, qui pendant longtemps sera le principal établissement d'enseignement et de formation en médecine. Je note bien entendu que déjà à William Ponty, il y a des formations en plus en sciences infirmières. Et à côté, à Bamako se développe une spécialisation parce que dès 1897 est créée une station d'observation tropicale qui deviendra l'Institut d'études rurales et d'agronomie appliquée. Et donc, qui accueillera dès 1920 les premiers étudiants en mobilité. Bamako, c'est aussi une école de travaux publics qui est créée en 1940. Donc ce sont les principaux établissements qui sont créés avant 1940. Peut-être qu'il faut y ajouter, et c'est tout sauf anodin, l'école normale d'institutrice de Dakar qui est créée en 1938 et qui va former en fait toutes les premières femmes diplômées d'Afrique occidentale française.
Et D'où viennent justement les étudiants et les étudiants? De quel pays? Jusqu'à quelle dimension du Sahel on peut étirer justement la perspective, Nyandou Touré?
On peut couvrir tout le périmètre de l'Afrique de l'Ouest avec de très grandes inégalités à l'intérieur des territoires en fonction de la plus ou moins grande proximité avec les frontières maritimes, j'entends, parce que la pénétration même de l'école est liée à cette géographie-là. Peut-être qu'il faut dire que socialement, il peut être intéressant de noter que, alors qu'au départ, parce que l'école William Ponty est censée être une sorte de continuation de l'école des fils d'otages, c'est ainsi que Louis Federbe a appelé les premières écoles. Donc, étant donné que ces écoles étaient censées former des fils de chefs, parce que c'est le deuxième nom de l'école des fils d'otages, donc en principe, socialement, on était censé accueillir l'aristocratie locale. Et il y a une sorte d'ironie dans le fait que la plupart des aristocrates locaux, et on en trouve sans doute une trace un peu dans cette résistance, dans le travail de Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë, la plupart des chefs locaux ne veulent pas envoyer leurs enfants dans cette école des Blancs. Et donc, pied de nez de l'histoire, ils ont fait le choix d'envoyer les enfants des esclaves. En le faisant, ils vont plus tard complètement déstructurer l'ordre social parce qu'on va vivre à partir de ces années-là dans un ordre dual, entre d'un côté un ordre traditionnel où on est aristocrate parce qu'on est chef de village et en même temps on n'a plus accès au vrai pouvoir qui est celui amené par le colonisateur. Donc la géographie là, elle est vaste. On a jusqu'à des personnes de Tombouctou. Peut-être qu'on pourrait citer nommément des gens. Je pense au travail de Bernard Salvin. Donc il était à Nantes, un historien. Et Bernard Salvin a écrit les mémoires d'intellectuels maliens, dont l'un était Bocar Cissé, le père de Soumaïla Cissé, qui a fait William Ponty. Soumaïla Cissé, figure politique majeure au Mali, est décédé en 2020, mais aussi le père de Ibrahim Boubacar Keïta. Et on comprendra plus tard comment cette géographie de l'école va aussi avoir une incidence sur la construction des nouvelles élites africaines.
Elle a représenté quoi, cette école, dans les imaginaires des étudiants sahéliens à l'époque? Parce qu'il y a à la fois une sorte de prestige qui est mêlée à cette école, mais à la fois aussi une forme de défiance, voire de méfiance.
On ne pouvait brosser un meilleur portrait de William Ponty. C'est à la fois une école très prestigieuse. En fait, les diplômés racontent toute leur fierté. J'ai pris le temps de lire donc, l'ouvrage « Instituteur des Sables » et puis d'autres témoignages d'anciens diplômés. Peut-être qu'il faut faire au moins un petit peu le portrait ou bien une petite liste des personnes qui ont été formées dans cette école.
Allons-y.
On pourrait citer, donc pour les hommes politiques maliens, Fili Dabo Sissoko, figure majeure de la politique malienne qui n'a pas eu la chance d'être le premier président du pays, mais aussi Modibo Keïta. Et à côté, donc pour le Niger, Diori Amani, pour le Bénin, Hubert Maga. On pourrait citer différentes figures politiques importantes dans chacun des pays et on pourrait, citons le tout dernier qui est président du Sénégal seulement en 2000, c'est-à-dire Abdoulaye Wade. Donc c'est une école qui a un CV long comme le bras et qui est la pépinière de toutes les élites africaines.
Je reçois aujourd'hui dans Afrique Mémoire dans le continent Nyandou Touré, sociologue malien, spécialiste des migrations, enseignant à l'université de Bamako. Il nous apporte aujourd'hui son éclairage pour comprendre l'histoire des migrations des étudiants africains, particulièrement au Sahel. Voici donc le premier décor. En pleine période coloniale, l'école et les rares établissements sont sous tutelle de l'Afrique occidentale française. Si la faculté de médecine de Dakar dispense des cours dès 1918 et que l'école William Ponty est le carrefour des étudiants de la sous-région, un élément reste central. L'emprise coloniale française décide encore des destins des étudiants. Curieusement, dans la dynamique des indépendances qui s'esquissent, ce sont les pensionnaires de ces écoles et leurs camarades, partis aussi se former dans la métropole, qui accélèrent le processus de libération. Les indépendances arrivent donc, le paysage évolue. Cher Nyandou Touré, quel est le nouvel écosystème pour les étudiants africains du Sahel et les nouvelles destinations par exemple?
Il y a de très grands changements à partir des indépendances. Le premier et le plus important, sans doute, est la création de la première université d'Afrique francophone noire, l'université Cheikh Anta Diop, en 1957. La même année est créée une université à Rabat qui accueillera déjà une partie de nos étudiants sahéliens ou d'Afrique de l'Ouest. Mais l'université Cheikh Anta Diop va être, dans le prolongement de ce qui se faisait auparavant, le lieu de formation par excellence des élites africaines dans l'enseignement supérieur, mais de toute, encore une fois, de toute la sous-région. Mais pas seulement Dakar. parce que peut-être que quelquefois, quand on fait une histoire de l'enseignement supérieur, l'on peut se tromper en soulignant que Dakar, c'est 1957, Abdou Moumouni, l'université de Niamey, c'est 1971, et que dans les autres capitales de la région, toutes les universités publiques sont créées au plus tard à la fin des années 70. Si à Bamako, elle n'est créée qu'en 1996, il est très important de noter que de grandes écoles et des facultés ont existé dès les indépendances, parce que il y a une orientation qu'avait en partage le clan de Modibo et des positions un peu anti-françaises et le clan plus proche de la France, le clan de Senghor. Tout le monde s'accordait sur le fait qu'il fallait absolument mettre en place un cadre adéquat à la formation de cadres bien africains. Et donc ce qui change, c'est que désormais, on est en mobilité, mais pas uniquement pour des formations au rabais, entre guillemets. On est en mobilité pour des formations dans le supérieur, à côté de chez nous et toujours en Afrique de l'Ouest, chez le voisin.
Est-ce qu'on a idée un peu des flux, des chiffres à l'époque? Est-ce que la recherche historique a permis justement de mettre une forme de vérité arithmétique sur ces questions?
Sur cette question, je me limiterai au périmètre des Maliens, en fait, pour lesquels on a des études, notamment des travaux de mémoire de l'Université de Bamako, qui chiffrent un nombre compris entre 5 000 et 10 000, le nombre de Maliens ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur au Sénégal, entre 60 et 75, en 15 ans. On n'a pas l'impression que c'est beaucoup, mais il faut mettre ça en relation avec le fait qu'en 1960, au Mali, c'est deux lycées publics, donc c'est dire qu'en gros, 90% des diplômés du supérieur originaires du Mali ont été formés au Sénégal au lendemain des indépendances pendant les 15 premières années, enfin de ceux qui sont en mobilité.
Niandou Touré, quand on parle de migration des étudiants, on ne peut manquer d'évoquer des logiques financières, les bourses par exemple, qui ont été des moteurs essentiels de ces déplacements. Est-ce que pendant cette période, pour les étudiants, il y avait des facilitations de conditions d'immigration qui étaient peut-être portées par des pays, d'autres types d'institutions, les pays d'accueil? Qu'en savons-nous à travers la recherche historique?
Pour l'essentiel, la mobilité dite institutionnelle, entre guillemets, encadrée par des acteurs institutionnels, elle est financée principalement par des organisations internationales. Très rapidement, par exemple, l'Organisation internationale d'aviation civile a permis à une dizaine de Maliens dès 1960 d'être formés au Maroc. D'autres acteurs vont rapidement entrer en jeu, ce sont les États eux-mêmes. Peut-être que je saute un peu trop en avant dans le temps, mais en 1982, lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, reconnaît ou accorde un statut d'observateur à la République arabe sahraouite démocratique, en réaction, le Maroc qui s'est retiré ressent le besoin de mettre en place une politique d'influence et à partir de 1984 va signer pas moins de 30 accords avec tous les pays d'Afrique subsaharienne afin de permettre aux étudiants d'entrer dans une forme de mobilité. Et donc on a des acteurs institutionnels, d'un côté les États, c'est pas seulement le Maroc, mais aussi des organisations internationales, beaucoup. L'Organisation mondiale de la santé notamment va mettre en place les mêmes dispositifs pour permettre à des médecins maliens d'être formés et notamment encore une fois au Sénégal.
Niandou Touré, il y a une question à la fois historique et sociologique. Je la pose à l'homme aux multiples casquettes que vous êtes. Entre 1910, 1930, 1940, jusqu'à la période des indépendances, est-ce qu'il y a une évolution dans la philosophie des départs? Qu'avez-vous pu lister, vous, dans vos recherches, comme motivation plurielle des départs des étudiants africains dans le Sahel?
Il y a beaucoup de raisons à partir étudier à l'étranger. Je pense qu'il y a une raison essentielle qui est presque philosophique, en fait, c'est un rapport au savoir qui a des fondements, qui a un terreau favorable dans la région. Peut-être que c'est ce que l'on ne dit pas assez. À l'échelle de l'histoire de cette région que nous avons en partage et qui connaît parfois ou qui est familière de l'écriture au moins depuis 1000 ans, la colonisation française, qui pour l'essentiel a duré max 80 ans, en fait c'est 1878 pour le Mali, même si pour le Sénégal il y a une petite exception, mais la création de ces écoles et de ces nouveaux lieux de savoir-là, c'est pour l'essentiel début 19e siècle. Mais il y a des lieux d'apprentissage dans la région depuis beaucoup plus longtemps. On ne peut pas rater l'occasion de rappeler que l'université de Tombouctou a été fondée très tôt, dès le 14e siècle, et que cette université ou la ville de Tombouctou accueillait au 16e siècle 100 000 habitants, dont 25 000 étudiants. Il est difficile de documenter de telles informations, mais le fait indiscutable, qui est matérialisé aujourd'hui par la présence de centaines de milliers de manuscrits dans la ville, est que le rapport à l'écriture, il ne se construit pas au début de la colonisation française. Ensuite, un deuxième facteur, c'est l'espoir d'une distinction sociale par les études et par la mobilité. Parce que cette géographie de la mobilité-là fait que la mobilité, je sais pas, cette tradition, elle fait que la mobilité, elle est valorisée, et les savoirs acquis à l'étranger, les titres universitaires acquis à l'étranger, ce capital symbolique nouveau-là, il est très valorisé dans une sorte de hiérarchisation où quasiment le local finit en dernière position. Et paradoxalement, ça ne vaut pas que pour les pays dont les systèmes éducatifs sont en retard, comme le Mali. C'est-à-dire que même pour un étudiant sénégalais, avoir un diplôme obtenu à l'étranger, la plupart du temps, quel que soit ce étranger, il est valorisable.
On va faire un pas de côté, vous l'avez mentionné, Tombouctou, les manuscrits. Afrique Mémoire, donc continent, a proposé pour sa première émission, justement, l'histoire des écritures africaines pour tordre le cou à pas mal d'idées reçues. Là, on reste dans un tropisme très, très francophone. Je voudrais qu'on parle, justement, des logiques aussi de migration étudiante en langue arabe ou en anglais. Est-ce que vous avez des éléments très, très précis sur, justement, cette migration qui est aussi très, très importante? On rappelle que la formation en arabe et en anglais a été aussi un des piliers de la formation au Sahel.
En effet, il y a une filière de formation en arabe qui est encore importante dans nos pays. À ce sujet, pour le Sénégal au moins, on pourrait lire beaucoup, beaucoup de chercheurs, dont Hamidou Dia, qui fait des choses intéressantes sur la question, et sur la reconnaissance des diplômes obtenus en langue arabe. À partir du Mali, moi j'ai eu un enseignant au lycée, donc ça c'est une période encore récente, un enseignant au lycée qui a lui-même été formé en Somalie. Des mobilités intra-régionales africaines. En fait, Tombouctou, et merci beaucoup d'avoir fait ce premier numéro sur les écritures africaines de soi et sur toute cette réflexion sur les manuscrits de Tombouctou qui sont donc tous en langue arabe, enfin, qui utilisent la graphie arabe à 80% pour de l'arabe et les 20% restants étant pour d'autres langues régionales comme le peul, le sonrail ou d'autres langues de la région. Donc, les circulations, en fait, on envoie les signes notamment par la présence à Tombouctou de ces dizaines de milliers d'étudiants étrangers, mais on le voit aussi par la mobilité des personnes originaires du sud du Sahara qui vont au-dessus du Sahara. Sincèrement, on peut documenter la présence d'intellectuels du Sahel au-delà du Sahara dès le XVIe siècle. Par exemple, une figure importante, c'est Ahmed Baba de Tombouctou, auteur apparemment à qui on attribue l'écriture de près d'une centaine de documents, un véritable intellectuel de son époque, présence à Marrakech. Donc, on sait que la colonisation, pour elle, il a été difficile de franchir cette bande désertique infranchissable. Mais pour les personnes à la recherche du savoir, apparemment, il y a très longtemps déjà qu'il y avait des formes de mobilité. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans la formation des Maliens, des Sénégalais, des Nigériens ou des Burkinabés arabisants ou arabophones en Arabie Saoudite, au Maroc ou en Égypte, n'est que la continuation de traditions intellectuelles beaucoup plus vieilles qui remontent à plusieurs siècles.
Est-ce qu'il y a des écoles, il y a des traditions, il y a des routes migratoires préférentielles pendant ces périodes-là qui vont chercher du savoir en arabe et qui utilisent la graphie arabe, comme vous venez de le dire?
Il y a des écoles parce qu'il y a des réseaux et je pense que les réseaux fonctionnent pour les écoles arabes, elles fonctionnent encore pour les écoles en langue française. Par exemple, la Dina du Massina.
On rappelle que le Massina, voilà, c'est un empire peul important dans l'histoire.
Absolument, c'est un empire peul important qui a existé jusqu'en 1860 et son invasion par Aladjo Martal qui va créer l'empire tout couleur au Mali. Donc il y avait une correspondance vraiment importante, non seulement par l'envoi d'élèves, et donc il y avait des filières de formation, donc ça crée une tradition intellectuelle islamique notamment, entre donc certains points principaux. Cette géographie-là, elle inclut Tombouctou, le Massina, c'est-à-dire le centre du Mali, Amdalaï était la capitale initialement, c'est la région de Bandiagara et tout, mais qui va au-delà, qui va jusque dans le Fouta Toro, qui entretient des liens avec des peuples d'autres communautés qui sont actuellement dans les territoires notamment du Sénégal, et aussi dans les territoires actuellement du Niger, ce qui explique, on le sait, les alliances matrimoniales entre Ousmane Danfodio et dont la fille sera épousée par Eladjo Martal.
Ousmane Danfodio, le califat de Sokoto. En un demi-siècle, le paysage change. On l'a vu, la cartographie des établissements évolue, avec elle les aspirations des étudiants, leur mobilité aussi. La donne est différente. Les États du Sahel sont devenus pour beaucoup indépendants. De nouvelles politiques d'attractivité émergent. La guerre froide bat son plein. Avec au cœur de celle-ci des bouleversements géopolitiques, les étudiants africains considèrent et reconsidèrent leur destination en plein un élan panafricaniste, se pose la question alors de la formation, de l'accueil des périls migratoires. Je vous propose de marquer ici une pause et on revient pour continuer à parler de la migration des étudiants au Sahel en compagnie du sociologue malien, professeur à l'université de Bamako, Niandou Touré.
Afrique. Mémoire d'un continent. Avec Elgas.
De retour dans Afrique, mémoire d'un continent, toujours en compagnie de Niandou Touré, professeur de sociologie à l'université de Bamako et rédacteur en chef de la revue Migration et Société. Je vous raconte avec son précieux éclairage l'histoire des migrations étudiantes au Sahel. Faisons, cher Niandou, un autre pas de côté. Parlons des migrations à partir des années 60, des étudiants particulièrement à destination de l'URSS. C'est une destination prisée par les étudiants sahéliens en période de guerre froide, notamment en opposition avec le bloc libéral occidental et particulièrement français. Ça pose d'ailleurs la question de la politisation et de la politique de la migration. Que peut-on dire de ces migrations? Rentraient-elles dans un circuit de retour et de dissémination régionale une fois qu'on est parti dans cet ensemble?
Absolument, il s'agit d'un sujet d'importance majeure pour l'histoire politique de la région parce que la décision de nouer des relations avec l'URSS au lendemain des indépendances découle bien sûr de la volonté de prendre de la distance vis-à-vis de Paris. Et c'est tout sauf un hasard si parmi les pays d'où partiront le plus grand nombre d'étudiants compte notamment le Mali. Donc à partir de 1960, beaucoup d'accords sont mis en place et là on est bien dans des mobilités encadrées par les États. Il y a très peu d'initiatives individuelle dedans, c'est très bien encadré. Il y a, avec un programme bien organisé, une année de formation pour apprendre le russe ou une autre langue, puisque les pays satellites, ça pouvait être apprendre l'ukrainien ou voilà, être en Ukraine ou dans d'autres pays satellites de l'URSS. Et donc pour le Mali, concrètement, ça se chiffre en, selon les sources que l'on peut lire, ça va de 3 000 personnes à 10 000 personnes formées entre 1960 et 1990. Principalement dans des sciences de l'ingénieur. Et donc, c'est une filière par laquelle le soft power russe de l'époque pouvait opérer. Et la conséquence en est qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui ressentent une certaine proximité avec ce pays est très élevé. Une autre conséquence, mais moins prévue au départ, c'est la présence de beaucoup d'enseignants pouvant enseigner le russe au lycée comme deuxième langue. Et donc au Mali, on avait le choix jusqu'à une période récente, mais c'est encore le cas dans certains lycées, entre l'arabe naturellement, l'allemand, mais aussi le russe.
Juste pour saisir justement l'étendue des flux et les destinations des étudiants du Sahel, Niandou Touré, j'aimerais qu'on soit dans une forme de sociologie comparative pour voir les flux vers l'Amérique du Nord, vers l'Europe, vers l'URSS et justement en comparaison avec les flux à l'intérieur du continent et particulièrement au Sahel. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, en essayant d'établir cette comparaison? Quel est le fait saillant qui ressort?
Ah, le fait saillant de la comparaison, c'est qu'il y a différents temps de la coopération et donc on ne peut pas ne pas aborder la question de la mobilité des étudiants sahéliens en direction de l'ancienne métropole coloniale qu'est la France. Et donc la comparaison, c'est qu'en fonction des pays, en fonction de la situation géopolitique et des alliances diplomatiques entre pays, le nombre d'étudiants va augmenter tantôt ou baisser très drastiquement. Les Amériques, c'est très très peu fait. Peut-être qu'il faut dire l'importance de Cuba dans la formation des élites africaines. Et donc ceux qui ont choisi l'option socialiste et communiste vont être formés en grand nombre à Cuba. Et Cuba, c'est aussi une géographie de la formation en sciences, en médecine. Donc c'est une formation de médecine d'excellence reconnue pour les Vénézuéliens et pour d'autres pays du continent américain. Et donc beaucoup, beaucoup de Maliens vont être formés à Cuba. Là encore, malheureusement, ni les services du ministère de l'enseignement supérieur ne sont incapables de fournir des données. Mais il suffit de rencontrer les fonctionnaires maliens âgés aujourd'hui entre 50 et 60 ans pour se convaincre de la grande proportion de personnes formées à Cuba.
Dans les années 70, 80 et 90, on va revenir bien sûr au Sahel. Quelles sont les destinations phares à partir de ces années-là, dans les années 80-90? Parce qu'on voit l'apparition de nouvelles écoles, des écoles de commerce, des business schools, comme on les appelle. Il y a un exemple en tête, c'est l'ISM au Sénégal en 1992. Comment s'opère la transition? Est-ce que ça aura un effet sur les flux sous-régionaux?
Absolument, cette transition va être très importante. En fait, là, tu mets le doigt sur la privatisation. Je pense qu'il faut, pour comprendre le contexte peut-être de la scolarisation et de ce qui crée la nécessité de cette mobilité, de ces mobilités pour études, il faut se rappeler un peu la situation démographique de la région sahélienne. En gros, les populations ont été multipliées au minimum par deux entre 60 et 90 pour chacun des pays de la région qui nous intéresse. Et depuis 90, entre 90 et 2022, la plupart du temps, pour le Mali par exemple, on est passé de 9 millions à 22 millions. Et donc les progressions sont à peu près comparables dans les pays voisins, même si la situation démographique n'est pas totalement identique avec les pays comme le Sénégal par exemple. Mais elle est très comparable, la situation entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, alliés aujourd'hui dans l'AES. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une privatisation qui est la conséquence d'une demande d'éducation à laquelle ne peut plus répondre le service public, l'offre d'éducation publique. Donc la privatisation était inévitable et d'ailleurs elle précède la législation qui va encadrer cette privatisation. On crée les écoles, puis on s'aperçoit qu'elles sont là, donc il faut faire des textes pour en justifier l'existence et pour en légitimer l'existence.
Parlons, Nyandou Touré, de la vie des étudiants, parce que je pense que c'est un élément important d'en savoir un peu plus sur les conditions d'accueil, les désagréments très souvent inhérents à la migration, les difficultés d'intégration ou de rejet. Même si on est dans un élan parfois panafricaniste, une forme de solidarité, d'adhésion justement à des idées communes, est-ce qu'on se heurte aussi à des situations parfois complexes, sinon tragiques ?
Parfois, les situations peuvent être tragiques, en effet. Je pourrais commencer par dire que le tragique, je l'ai rencontré notamment sur des terrains de recherche conduits auprès d'étudiants subsahariens d'Afrique de l'Ouest au Maroc. Mais on n'a pas besoin d'aller au Maroc pour rencontrer des situations, j'entends par tragique, des situations dans lesquelles ils font face au racisme quotidien. Des étudiants à Dakar, qui est pourtant aujourd'hui l'un des pôles les plus importants, héritage encore une fois d'une histoire. Si chez les étudiants maliens auxquels je m'intéresse à Dakar, il y a bien le sentiment d'avoir trouvé la bonne destination, que ce soit pour les études dans le public ou dans le privé, les étudiants d'Afrique centrale ont un discours plus nuancé, peut-être en raison de l'impression qu'ils ont d'une moins grande proximité culturelle et de leur désignation par des mots, des noms qui ne sont pas très très positifs.
Et une voix s'est souvent fait l'écho de ces crises, l'âme des peuples et le rugissement parfois de valeurs immortelles, Salif Keïta.
Musulu sekele, yo gudona he. Hakili mayere malo musula katoyole, musulu toyole, gudona he. Eni ki wasawadi tiyele, afisa buyuma, asabu kani. Yeneka ke waditi bari olola mosolefe inale ina ina kusagoduna ina goduna kandi wasofa male afisa buyuma asabu kayi eneka ke fama bari Olola mosolefe, ina le ina, ina kusa godona, ina nyoma bo. Solu bara obela, ala oro yaka. Solu furuke boyala, malike bole senege rodo, ikwani daga sigile.
Moussoulou, une ode aux femmes. Parlons justement, cher Nyandou, de la composition des flux migratoires, de ces étudiants à la place des femmes, par exemple, l'âge moyen. Est-ce qu'on a des données sur ces questions à l'intérieur du Sahel ?
à l'intérieur du Sahel, je crois que si on a un problème, c'est la difficulté à documenter. Et donc, malheureusement, même pour parler de la mobilité des étudiants guinéens au Sénégal ou les Burkinabés à Bamako ou des Camerounais à Bamako, on ne peut se reposer que sur les données de UIS, l'Institut de statistique de l'UNESCO. Et pourtant, ces données, elles sont très incomplètes. Pourquoi ? Parce que les étudiants burkinabés au Sénégal n'ont pas forcément besoin de s'enregistrer auprès de l'administration et ne détiennent pas forcément de titre de séjour. Et donc, il peut arriver qu'une partie de cette population soit invisible pour nous. Et parfois, pourtant, si on avait accès à ces informations, on saurait que les mobilités pour études, tout comme les migrations de façon générale, se passent principalement entre pays voisins. C'est une vue de l'esprit de croire que ça se passe ailleurs. Et donc, pour moi-même, d'avoir choisi de travailler sur la mobilité d'étudiants maliens en France. Donc, on passe à côté de quelque chose. Néanmoins, on peut quand même dire deux, trois choses sur la composition de cette population, notamment étant donné qu'on vient de sortir d'une chanson sur les femmes. Rappeler que, par exemple, au lycée, à la sortie du lycée, la proportion de jeunes filles, c'est 25% pour Ouagadougou, Bamako ou Niamey. Pour Dakar, je ne peux pas m'engager, je n'ai pas vérifié avant de venir. Donc les filles, c'est une personne sur quatre qui finit le cycle d'enseignement secondaire général. Et donc, à l'université, ces inégalités se reproduisent naturellement. Elles sont moins nombreuses et elles vont être moins nombreuses en mobilité. Et dans les stratégies de scolarisation à l'étranger, de ce que j'ai entendu, donc ce qui ressort de mon terrain, c'est qu'au Mali, même chez les couches les plus favorisées, il y a moins de propension, moins de facilité à envoyer sa fille étudier à l'étranger, sauf si cette mobilité s'inscrit dans un plan plus large où elle est en présence d'autres personnes. Donc les filles sont sous-représentées dans la mobilité, tout comme elles le sont plus généralement dans les taux de scolarisation et de réussite scolaire dans la région.
Parlons rapidement des pays destination, des pays du Maghreb. Le Maroc, je sais, est une destination et vous travaillez particulièrement justement sur les étudiants maliens au Maroc. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de cette destination tout particulièrement, très rapidement?
Le Maroc se distingue par le fait qu'en comparaison avec la Tunisie et l'Algérie sur lesquelles peut-être nous reviendrons, il propose à la fois une offre très variée de formation, aussi bien dans le public que dans le privé. Et donc ça permet d'un côté à des étudiantes qui s'inscrivent dans une mobilité dite institutionnelle, je vous l'ai dit, cette série d'accords qui permettent à des étudiants d'être formés chaque année. Donc pour le Mali actuellement, c'est 200 personnes par an. Pour le Sénégal, c'est pas loin de ce même nombre. Les Sénégalais ayant un statut un peu plus favorisé en raison d'accords entre les deux pays. Donc c'est un pays qui permet de bien vivre, d'accéder à une formation de qualité, pas loin, et aussi bien dans le public que dans le privé.
Je reçois un sociologue spécialiste de la migration, professeur à l'université de Bamako, rédacteur en chef de la revue Migration et Société. Il s'agit de Niandou Touré. Il nous raconte l'immigration des étudiants au Sahel et on l'a vu au-delà parce que le débordement est inévitable. À partir des années 2000, les routes migratoires se consolident. Bourses, accueil, partenariats entre établissements et pays. Un circuit plus sophistiqué se développe en même temps que la multiplication des établissements publics comme privés. L'offre donc et la demande. Rester en Afrique est un symbole politique fort pour ne pas participer à ce qu'on a appelé la fuite des cerveaux. Si les destinations occidentales, comme on l'a vu, sont encore très prisées, un enjeu local devient crucial pour le destin des pays et formateurs et des pays voisins. Niandou Touré, qu'est-ce qui change aussi à partir des années 2000 fondamentalement? Quelle est la nouvelle cartographie des établissements et des routes migratoires concernant les étudiants? Est-ce que des institutions comme la CDAO promeuvent-ils justement cette intégration par les études dans la sous-région?
À partir de 2000, je pense qu'il se produit presque un regain d'intérêt pour les différents pays de la sous-région, pour les formations dans les pays voisins, sans doute à cause des possibilités plus étendues avec la multiplication des établissements d'enseignement supérieur privé qui proposent une offre de formation de qualité. Et encore une fois, la plupart du temps, c'est ce que disent, ce qui ressort des enquêtes auprès des parents. S'ils en ont la possibilité, ils ont une préférence nette pour des formations dans des pays voisins. Pas uniquement uniquement pour la qualité, j'entends bien, mais lorsque c'est possible d'accéder à la même qualité, tout le monde préfère former son enfant le plus près possible de lui. Donc ce qu'il se produit à ce moment-là, c'est un regain d'intérêt pour les destinations et différentes organisations, dont la CEDEAO en effet, encouragent et promeuvent, mais ne mettent pas en place suffisamment de moyens, contrairement à ce qui se passe dans d'autres aires régionales. On pense à Erasmus par exemple, il n'y a toujours pas d'équivalent. La francophonie, à travers l'AEF, propose aussi différentes bourses et différents dispositifs de soutien permettant la mobilité des étudiants entre pays francophones notamment.
L'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Alors Nyandou Touré, bien sûr, on le sait, sauf si on est malveillant, et vous l'avez rappelé, l'essentiel des routes migratoires africaines se fait dans le continent. Il y a un caractère tout simplement universel, parce que le réflexe quand on quitte une urgence, c'est d'aller dans la proximité la plus immédiate. Quelle est la part justement étudiante dans cette migration générale au Sahel? Est-ce que c'est une part importante ou dérisoire?
Elle n'est pas très importante parce qu'elle est à l'image même peut-être des taux de scolarisation dans les pays dont on parle. Le taux brut de scolarisation dans le supérieur, il se situe autour de 6% en moyenne pour toute la région. Et donc, ça veut dire que les personnes qui ont besoin de se former ne sont pas si nombreuses que ça. La première destination migratoire des Maliens, c'est la Côte d'Ivoire, mais pour les études, peut-être parce que les données nous manquent, la Côte d'Ivoire n'apparaît qu'en 5e ou 6e position comme destination d'études. Alors pour ne pas rester uniquement sur la mobilité des Maliens, on pourrait aussi parler de la mobilité des Guinéens qui est très importante vers le Sénégal, suivant en cela en fait une destination migratoire connue pour cette population. Et donc il y a quelque chose quand même, une sorte de superposition entre la migration de façon générale et les mobilités pour études. Un peu plus tôt aujourd'hui dans un débat aux géopolitiques de Nantes, quelqu'un se demandait ce qui pouvait justifier le choix d'essayer d'aller dans un pays plutôt que dans un autre. Je pense que l'un des moteurs les plus évident, c'est rejoindre des villes ou des pays où on a déjà une communauté nationale présente.
Et que sait-on de la durée moyenne des séjours des étudiants dans leur pays d'accueil et aussi de la question importante, centrale, des retours? Est-ce qu'une fois partis, reviennent ou ils restent aussi dans ces pays africains où ils sont accueillis?
Pour la durée de formation, je peux donner des informations qui sont fondées sur mon propre travail de recherche sur les étudiants maliens au Maroc et en France. En moyenne, les étudiants restent 5-6 ans parce qu'ils font un cycle de formation en licence, puis on fait un master ou un diplôme d'ingénieur. Et donc peut-être qu'avec la petite proportion d'étudiants arrêtant les études après la licence et d'autres qui font jusqu'au doctorat, cela nous donne cette moyenne-là. Les conditions du retour sont surdéterminées par les politiques d'accueil dans les pays où l'on est. C'est-à-dire que la possibilité de s'insérer sur le marché du travail, d'obtenir un emploi, de changer de statut, est un facteur déterminant. C'est-à-dire que la proportion d'étudiants qui restent en France par rapport à ceux qui restent au Maroc, en France, elle est beaucoup plus importante. Mais cela a moins trait au fait que les étudiants maliens rêvent de vivre en France qu'au fait qu'ils ont la possibilité d'y rester. Par exemple, pour démontrer la vérité de ce propos, on n'a qu'à s'intéresser aux étudiants maliens à Dakar qui restent pour un tiers au Sénégal. Et donc ça veut quand même dire que quelque part, ce sont les conditions matérielles, les conditions juridiques, administratives, la possibilité de s'établir durablement et d'avoir un emploi dans un pays. Moins il y a de discrimination, plus il y a de possibilités, plus les étudiants peuvent envisager de rester dans le pays de formation. Cela est d'autant plus important que les années de formation, en particulier après le lycée, sont des années de construction de soi qui font que peut-être cette construction de soi, elle se fait en corrélation avec l'espace où on est formé.
Merci, cher Nyandou Touré. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Migration et Société. Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Bamako. Merci de nous avoir accordé ce précieux temps ici au Géopolitique de Nantes. Merci d'avoir été l'invité d'Afrique Mémoire d'un Continent. Salman Rushdie écrivait « L'homme n'a pas de racines, il a des pieds ». Comprendre que son destin est le voyage, partir, se nourrir, s'évader, découvrir. Un parcours idéal, hélas, souvent heurté par un réel dur et souvent brutal. Dans l'histoire qui suit son cours et l'immigration étudiante au Sahel, qui défie les catastrophes, c'est une histoire qui continue donc à s'écrire. Et à leur échelle, c'est l'expression d'une quête de savoir, d'unité, d'insouciance. Merci à Nyandou Touré pour son éclairage qui nous aide à contrer cette éclipse qui jette encore son ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. Ici s'achève votre émission du jour. Merci à toute mon équipe, Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fratraoré à la réalisation. Vous retrouverez bien sûr l'émission en podcast sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio.